La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à tous. Comment allez-vous dans la maison de Dieu ce matin? Ça va? Donc, une fois que vous avez trouvé le texte, n'hésitez pas à dire Amen. Donc, c'est Apocalypse, comme il a dit, Pedro, 1, 4 à 8. Merci. Jean, aux 16 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et devant la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen.
Buongiorno. Je peux parler en italien. Nos langues sont sœurs. Merci. Alors, merci de l'invitation. Et je sens la responsabilité, le poids de cette aventure ensemble. Témoigner l'Évangile aujourd'hui dans un monde que l'Évangile l'a complètement oublié dans la pratique, ce n'est pas facile. C'est un défi. Prêcher l'Évangile dans une ville comme Paris, qui est renommée partout dans le monde pour sa laïcité, c'est peut-être encore plus difficile. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont prêtes et qui attendent un message. Je viens de voyager dans deux pays récemment, en Allemagne et en Hongrie. Et en Allemagne, j'ai entendu une histoire unique que je vais la partager samedi prochain, le matin. Comme le Seigneur a arrangé les choses pour une famille qui était en train de chercher le message de l'Évangile. Ce matin, je vais partager avec vous ce texte que vous connaissez très bien. On connaît l'Apocalypse, plus ou moins. On connaît surtout les aspects prophétiques de l'Apocalypse. Mais vous verrez ce matin et samedi prochain qu'on va lire les derniers chapitres de l'Apocalypse, qu'il n'y a pas seulement prophétie, il y a beaucoup d'autres. Et avant de commencer à lire et à réfléchir sur ce texte, je veux vous inviter à la prière. Comme nous verrons ce matin ici, nous sommes Jésus fait de nous, parmi d'autres choses, fait de nous des sacrificateurs, des prêtres. Et je veux que nous exercions maintenant cette vocation, cet appel. Cette vocation, cet appel. Et je vous invite à prier personnellement, en silence. Pour deux raisons, pour deux sujets, que le Saint-Esprit nous parle avec cette parole et que le Seigneur conduise ici ce soir les personnes qu'il veut conduire au salut. Allons en silence à prier. Amen. Apocalypse, chapitre 1. Vous connaissez les commencements de ce chapitre, la révélation de Jésus-Christ. Et les trois premiers versets sont des salutations initiales. On va reprendre mot après mot à partir du verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Et parmi ces sept églises, il y a aussi quelque chose qui se rattache à nous. Ce sont des sept églises qui représentent toute l'Église, toute l'histoire de l'Église. Ce sont des messages adressés à chaque Église, à chaque croyant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Voilà, le message est adressé de la part de la Trinité. C'est intéressant, il y a une salutation ici pour nous tous. Quand les épîtres, plusieurs épîtres, vous les lisez, elles commencent que la paix, la paix. Et cette fois ici, dans ce livre, dans les derniers livres de la Bible, cette adresse, cette salutation est adressée de la part du Père, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a quelques problèmes avec la Trinité. Il y en a beaucoup qui refusent de croire que le Saint-Esprit c'est une personne. Il y en a beaucoup, et le numéro augmente, qui n'acceptent plus Jésus comme Dieu. Et malheureusement, il y en a aussi parmi nous des membres d'Église qui ont des doutes sur ce point-là. Je me suis pensé sur ce thème quand j'ai enseigné théologie systématique. J'étais pas un professeur systématique. J'étais pas un professeur à plein temps. J'étais professeur invité. Et un des thèmes que j'ai touché, c'était justement le thème de la Trinité. Mais en même temps que je me préparais pour les leçons, voilà qu'un problème a éclaté dans une des églises de Milan. Un petit groupe de frères ont commencé à distribuer des prospectus, des petits papiers, où ils étaient en train de convaincre les personnes que le Saint-Esprit n'existe pas comme personne. Alors j'ai dû approfondir le thème, pas seulement pour les leçons que je devais donner, mais aussi pour faire face au problème de cette église. Ce n'était pas une église où j'étais pasteur, c'était une église qui faisait partie du nord d'Italie où j'avais la responsabilité. Et j'ai lu toute la Bible avec l'attention au texte qui parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai lu plusieurs fois. Le Nouveau Testament, une fois l'Ancien, mais plusieurs fois le Nouveau Testament, avec cette spécifique recherche. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de textes j'ai trouvé où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble. Est-ce que vous avez quelques idées? Plus ou moins. Combien de textes vous imaginez qui est présent les trois ensemble? Si on présente dans un chapitre un verset, dans un autre qui parle du Père, dans un autre qui parle du Fils, dans un autre qu'on parle du Saint-Esprit, on n'a pas la force de pouvoir dire voilà les trois. Parce qu'il y a des églises, il y a des théologies qui disent que Père, Fils et Saint-Esprit sont trois façons différentes pour présenter le même Dieu, la même personne. Mais quand les trois comme ici, sont ensemble dans le même contexte, c'est différent. Combien de textes vous pensez qu'il y a? Pensez, oh, il y en a beaucoup. Une trentaine. Une centaine. Plus. j'ai trouvé, et je suis sûr que si je vais lire une autre fois, je ne trouve encore 117 textes. Et la chose intéressante en étudiant tous ces textes, c'est que les trois sont ensemble dans les 10 plus importants aspects du message biblique. Dans la création, dans la venue du Christ, dans le retour du Christ, dans les ministères du Christ en ciel, dans l'œuvre du salut, dans la vie chrétienne personnelle. Quand les trois sont ensemble, il y a toujours quelque chose d'important qu'il y a derrière. Ici, les trois sont ensemble. Ils donnent une salutation ensemble. Ils ont un message ensemble. Ça doit être quelque chose d'important. Et les livres du Nouveau Testament, qu'il y a plus de fois la présence des trois ensemble, c'est l'Épître aux Éphésiens. Comme numéro général, c'est le livre des Actes des Apôtres, mais c'est beaucoup plus long que les Éphésiens. Dans l'Apocalypse, j'ai lu 10 fois les trois ensemble. C'est ici, et nous le verrons encore à la fin du livre. Quel est le message? Alors ici, il y a une mention au Père, qui est, qui était et qui vient. Ces tests, c'est aussi appliqué, ces trois mots sont aussi appliqués au Fils. Mais ici, les trois sont ensemble, et disons que pour le Fils, il y a quelque chose en plus, on va le voir bientôt. Après, il y a la mention aux sept esprits qui sont devant son trône. Pourquoi sept esprits? Est-ce que ça signifie le Saint-Esprit? Oui, dans l'Apocalypse, un bon nombre de fois, les Saint-Esprits sont les sept esprits. Il y a sept églises, sept sceaux, sept trompettes, sept dernières plaies, sept tonnerres qui sont annoncés mais pas expliqués. Et quand on trouve sept dans l'Apocalypse, sept dans la plénitude, sept dans la totalité, et le Saint-Esprit est ici dans la totalité. Et après, il y a Jésus-Christ. Mais voilà qu'ici, il y a quelque chose qui vient d'intéressant. Le Père est seulement mentionné. Le Saint-Esprit est seulement mentionné. Mais quand il y a le Fils, alors on entre dans les détails. Et le texte nous dit ce qu'il est, ce qu'il fait. D'abord, ce qu'il est, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts, les princes des rois de la terre. Quelle présentation! C'est pas quelqu'un comme ça. Les premiers-nés d'entre les morts. On va voir dans ces soirées la résurrection du Christ. Les princes des rois de la terre. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants. C'est lui qui est le chef, selon plusieurs textes des Épîtres de Paul. Et les témoins fidèles. Mais ce texte ne nous dit pas seulement ce qu'il est. Nous voulons maintenant nous concentrer sur ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Allons voir deux aspects. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est quelque chose que presque tous les chrétiens savent. La mort du Christ, expression de son amour, de l'amour de Dieu. Mais peut-être quelques-uns d'entre vous a une traduction qui ne dit pas la même chose. En effet, j'ai une collection de Bibles qui est très longue, j'ai 225 Bibles. Si vous avez des vieilles Bibles, je suis disposé à les acheter, parce que je suis en train de mettre sur place le musée de la Bible. Il me manque une Bible si grande, mais j'ai vu où je peux l'acheter, et j'irai à l'acheter. J'ai lu plusieurs de ces textes, ce ne sont pas tous dans la même langue, et il y a deux traductions. Une qui dit « celui qui nous a délivrés de nos péchés » Et il y a d'autres traductions qui disent « C'est lui qui nous a lavé de nos péchés ». Vous avez peut-être, quelqu'un de vous a une version et d'autres ont l'autre version. En réalité, les mots dans la langue originale peuvent être traduits dans les deux façons. Et ici, il y a deux aspects de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ nous délivre et nous lave. Les deux choses sont ensemble. Et vous avez peut-être quelque chose qui nous rappelle à ça dans le Notre Père. Pardonne-nous nos péchés et délivre-nous du mal. Vous vous rappelez? Le salut, ce n'est pas seulement un pardon. Jésus est venu pas seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous délivrer du poids, de la domination, de l'esclavage du mal et du péché. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas tellement clair dans la théologie chrétienne, je ne dis pas théologie adventiste, parce qu'en étudiant cet aspect, j'ai découvert d'une façon très claire cette double action, cette double signification de la mort du Christ pour nous, essentiellement dans notre compréhension de la Bible. Et si vous voulez, un texte qui l'explique très bien, c'est un texte bien connu, c'est vers Jésus. Dans vers Jésus, Madame White explique présente ces deux importantes opérations du Christ. Il est venu pour nous délivrer, mais avant de nous délivrer, il nous lave, il nous pardonne. Et vous trouvez cela bien expliqué dans l'épître de Paul aux Romains. Les premiers cinq chapitres, l'apôtre parle du Christ qui meurt pour nos pardons, pour nous justifier. À partir du verset 13 du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, il y a l'autre aspect de l'œuvre du salut, que Jésus-Christ change notre vie et nous a franchis de la chaîne du péché. Voilà quelque chose de très important. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Christ, c'est l'auteur, c'est l'inspirateur et c'est l'acteur des œuvres qui sont indiquées dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, le verset 3 le dit très bien. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses, car le temps est proche. Regarde vers l'avenir. Et cette phrase, vous la trouvez aussi à la fin de l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse commence en présentant un livre prophétique qui parle en avance de toute l'histoire, de la première à la deuxième venue du Christ, et va au-delà, commence avec ce message. Voilà, je te sauve. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te délivrer des conséquences éternelles du mal. Je suis venu pour te délivrer du poids et de la tentation. Amen. L'œuvre de Christ, c'est le thème introductif et central de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas seulement ça. Et si sur cet aspect, la compréhension n'est pas aussi claire toujours, et même chez nous, la deuxième partie de son œuvre qui est indiquée au verset 6, c'est encore plus méconnue. Alors je vais lire encore « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Voilà ici la deuxième partie de l'œuvre du Christ. Même la première est en deux aspects. Mais ici, il y a quelque chose qui est encore plus méconnu de la première. Et il est méconnu parce que c'est une méconnaissance historique. C'est une méconnaissance radicale qui vient de l'Antiquité. Quand la société, même maintenant, même beaucoup plus dans l'Antiquité, la société était divisée de Rome, patrice et plébé. On dit comme ça. Peut-être vous allez découvrir dans cette semaine aussi quelque chose de différent, et pas seulement quelque chose par rapport au Christ, que je vais introduire de nouveaux mots en français, qui sont un peu les mélanges de français, espagnol, italien, prononcés d'une façon qui veut être française, mais je ne sais pas combien sera française. Bien, retournons là. Tout le temps, nous témoigne. Toute l'histoire nous témoigne d'une compréhension de la société, surtout en deux classes. En Inde, il y en avait beaucoup plus de deux. Mais la société est divisée dans les chefs et dans les soumis, dans les rois et prêtres et dans la plèbe, dans ceux qui avaient les droits et ceux qui étaient dans les devoirs. Jésus-Christ est venu pas seulement pour nous sauver en nous pardonnant, pour nous recréer en nous délivrant, mais il est venu pour faire de nous des rois et des prêtres. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a dans sa Bible pas un royaume et des prêtres comme dans la mienne, mais il y a des Bibles qui traduisent des rois et des prêtres. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une Bible qui dit comme ça? Personne. Mais il y a des Bibles qui traduisent comme ça. Et je crois que la traduction la plus correcte, il a fait de nous des rois et des prêtres. Et voilà, ici, il y a un aspect qui entre dans toute autre dimension. Il n'est pas seulement venu pour nous sauver, dans les deux aspects que nous avons vus, il est venu pour donner à nous une identité, une nouvelle identité, une nouvelle fonction, une nouvelle réalité humaine. Il est venu à recréer en nous ce qu'il avait fait au commencement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est venu à nous redonner ce que les péchés nous avaient enlevé. Et vous rappelez le texte de Genèse, qu'il domine sur les animaux, sur toute création. Le mot dominer, je n'aime pas. Pour donner à nous l'autorité et le rôle qu'il avait envisagé pour nous avant le péché, dès le commencement. Il vient à faire de nous des rois et des prêtres, des reines et des prêtresses. Oui, parce qu'il faut souligner ça. Ce n'est pas seulement des rois mâles, il y a aussi des reines ici. Sœur, vous êtes une reine. Vous ne croyez pas? Ah oui. Tu es un prêtre et tu es une prêtresse. Tu es un prêtre et tu es une prêtresse. En fonction de notre acceptation du Christ, en fonction de ce que nous avons témoigné avec notre baptême, en fonction de sa parole, par le Christ, maintenant, nous sommes tous rois et prêtres. Amen. Tous rois et prêtres. Et nous le serons pour l'éternité. Il y a un texte très intéressant dans les évangiles où Jésus dit: il a plu à mon Père de préparer pour vous un royaume. Et Madame White commente, et elle dit que nous aurons une planète pour nous. Il y en a assez. Mais l'idée, je ne voudrais pas vivre dans une planète tout seul. L'idée, c'est que nous aurons de nouveau la dignité et l'identité des fils de Dieu. Voilà, nous l'avons déjà. Ce n'est pas seulement pour le futur. Et c'est écrit ici, il a fait, et pas il fera, il a fait de nous, roi et prêtre, pour notre Dieu, pour son Dieu, Père. J'étais en train de lire mal. Ici, c'est écrit en réalité, pour Dieu, son Père. Et celle-ci, c'est quelque chose qu'il faut expliquer un peu. Cette phrase, c'est quelque chose qu'on le trouve seulement une autre fois dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Le jour où la Madeleine rencontre Jésus après sa résurrection, comme elle le reconnaît, elle se précipite, elle embrasse Jésus. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle lui dit? Ne me traîne pas, ne me touche, mais. Ok. Parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. Mais va et dis à mes frères, dès maintenant, dès ce que Jésus a fait, nous ne sommes plus soumis aux frères de Jésus. Et il dit, dis à eux, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Grâce à Jésus, il fait de nous ses frères. Le Dieu de Jésus maintenant est notre Dieu. Le Père de Jésus est notre Père. Et nous sommes tous frères en Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Après tout cela, le texte regarde la deuxième venue du Christ. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. L'Apocalypse nous présente les maintenant d'une façon d'une façon nouvelle, mais en même temps nous projette dans la deuxième venue du Christ. Avec l'Apocalypse, nous sommes déjà dans les déjà et dans les pas encore. Mais les pas encore est lié à sa deuxième venue. L'Apocalypse regarde d'une façon complètement nouvelle la réalité chrétienne. Nous sommes ici dans l'attente de. Nous sommes ici dans la perspective, dans une autre perspective. Et le dernier verset, parce que mon temps est terminé, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il y a plusieurs explications de ce texte. Quelqu'un dit qu'il s'applique au Père, quelqu'un d'autre dit qu'il s'applique à Jésus-Christ. Qui est qui parle dans l'Apocalypse? C'est le Christ. C'est le Christ. Venez avec moi, juste pour un instant, au chapitre 22. Chapitre 22, et nous lisons les versets. Voilà, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Père dans l'Apocalypse est présenté, mais ne parle pas. Le Saint-Esprit est présenté, il intervient. Il agit, mais il ne s'exprime pas. Seulement le Christ se présente, et quand il se présente, il parle à la première personne. Je suis. Et ici, dans ce texte, je suis, se réfère à Jésus-Christ comme Alpha et Oméga, comme le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Christ de l'Apocalypse, c'est Dieu dans toute la puissance. C'est Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. Ou j'aimerais dire, c'est une personne de la Trinité. Et c'est lui qui dit qu'il nous sauve, qu'il nous délivre, qu'il fait de nous des rois et des prêtres. Quelle bénédiction! Vous êtes convaincu de ça? Vous croyez à ça? Amen.